Les prémontrés du diocèse Navarro-Labourdin de Bayonne regardent sur les deux abbayes labourdines de Léonce et d'Urdas-Ubite. Le thème de la conférence que nous vous proposons d'entendre. Elle était présentée par Mickaël Duvert, enregistrée le 8 février 2024 au Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne. Nous écoutons Mickaël Duvert.
Je vais vous parler des prémontrés. Peu de gens connaissent les prémontrés, hélas. Alors qu'ils ont évangélisé tout le pays basque nord, pratiquement, quoi. Donc, à la retraite, je me suis penché sur cette abbaye d'Urdas-Ubite, Urtax. Et je n'ai eu de cesse que d'en comprendre la genèse et l'histoire. C'est un peu ce que je vais vous raconter là. Je vais commencer par le début, c'est-à-dire par la fondation des prémontrés. Alors l'église des premiers siècles, c'est-à-dire à la chute de l'Empire romain, se constitue dans la pagaille et dans le conflit évident. Il fallait que la société s'entende sur le statut des nouveaux clergés. L'église avait des problèmes internes à résoudre, notamment le choix des textes sacrés et canoniques et la liturgie, c'était pas rien. Il lui fallait régler les conflits entre évêques et surtout entre Rome et Byzance, où là les conflits étaient sévères. Elle devait aussi rétablir l'autorité des conciles. Au XIe siècle, à l'initiative de Grégoire VII, l'Église romaine reprit en main son administration et chercha à lutter contre la simonie et la mainmise seigneuriale. Évidemment, la plupart des petits chefs ici nommaient les curés. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils pouvaient raconter, ni comment, sur quelle base ils pouvaient les nommer. Mais enfin, le mariage des prêtres, il y avait des enfants de cœur qui étaient vraiment des enfants de cœur, croyez-moi. Et la dévalorisation du mariage religieux, le faste ostentatoire et les ambitions des bénédictins de Cluny. Les liturgies non conformes, les liturgies visigothes, mozarabes, il fallait unifier tout ça. Et il y avait des formes de christianisme local, chez nous en particulier, il y avait le problème des donats, des chéroras, et le problème de la baragnie, du mariage à laisser, qui était codifié dans le fort navarrais. On pouvait donc marier avec une femme, ou vivre avec une femme un certain temps. Ça marchait, c'est bon, ça marchait pas, on changeait. Vu l'état de l'Église et de la société et de la prédominance des bénédictins de Cluny qui faisaient un peu la pluie et le beau temps, semble-t-il, les cisterciens et les prémontrés vont rentrer en dissidence. Deux grands réformateurs vont partager les projets du pape de Rome, Grégoire. Le premier qui va nous occuper, c'est Norbert de Xanten, qui est né à Genève, dans la Rhénanie du Nord, et le second, Bernard de Clairvaux, un bourguignon, qui fondera, lui, l'ordre des cisterciens. En 1121, Norbert va fonder une communauté à Prémontré, dans l'Aisne, proche, à côté de l'An. Vers 1126, le pape Honorius II autorise la création de l'ordre de Prémontré ou Norbertin, et pour nous l'aventure va commencer. Norbert, lui, il veut un clergé modèle, engagé dans la société afin de la réformer. Les prémontrés vont investir des prêtres, les prêtres de leur paroisse. La tâche sera complexe et difficile, c'est souvent qu'ils se feront mettre dehors, du reste, comme le montre le petit schéma, le petit dessin d'ici. Les prémontrés seront donc des chanoines, c'est-à-dire ils vont vivre de façon communautaire en se fondant sur une règle de vie qui leur a été dictée par Saint-Augustin, c'est la règle dite de Saint-Augustin. Les couvents furent mixtes au départ. Il y avait des couvents de femmes et des couvents d'hommes. Mais avec Rome, ça ne durera pas. Et par contre, son ami Bernard de Clairvaux, lui, va fonder un ordre cloîtré qui sera conforme à la règle de Saint-Benoît. Donc on a deux systèmes, un système ouvert et un système fermé de clôture de bénédictins. Ces chercheurs de Dieu, comme ils s'appelaient eux-mêmes, adopteront le blason de la maison royale qui sera conservé à Lens. Lens possède actuellement le blason, qui est le blason fondateur des Prémontrés à côté de Lens. À la mort de Norbert, l'ordre des Prémontrés comptait une quarantaine d'établissements et plus de 600 maisons. C'était le principal ordre avec celui des Cisterciens. Six siècles plus tard, en 1790, les Norbertins étaient à la tête de 93 abbayes, ils desservaient 430 paroisses et il y avait environ 1200 Prémontrés actifs. Les Prémontrés étaient de brillants intellectuels. À nos portes, le roi d'Espagne les protégeait et les invitait à ouvrir des écoles. Des 16e au 18e siècle, leur bibliothèque était diversifiée et spécialisée. Certaines de ces bibliothèques pouvaient contenir jusqu'à 23 000 livres. C'est vous dire la qualité de ce qu'il pouvait y avoir. À Urdasubi, à Leunce, leur collège enseignait non seulement la théologie, mais aussi les lettres basques. Le père de la littérature basque, Atxular, fut un élève des Prémontrés d'Urdax. De même, l'abbé d'Arigol, à Leunce, qui fut lui-même supérieur du grand séminaire de la Ressort. Au XVIIIe siècle, Monseigneur d'Arche, évêque de Bayonne, écrivait tout son intérêt pour Lens que l'on voulait restructurer. Il disait que cette maison fournit actuellement 7 cures au Pays Basque. Elle est la seule où il y ait des religieux instruits dans la langue du pays. Si on l'unissait à quelque autre maison du même ordre, les Basques ne voudraient pas s'y affiler. Ils sont trop attachés à leur patrie. En effet, on ne voit aucun Basque dans les autres maisons. Je n'en connais qu'un qui est organiste dans une maison des Landes, dans Saint-Jean-de-Castel. Bon, il y a toujours quelqu'un de bizarre dans le lot. Voilà. Donc voilà la présentation globale des Prémontrés. Voyons maintenant leur expansion, comment ils sont venus chez nous, pourquoi faire et comment. Les Prémontrés ont été appelés par l'archevêque d'Auch, Guillaume d'Andocile. À ces époques, les diocèses d'Aire, de Bayonne, de Bazas, de Comminges, de Couserans, de Dax, de Lectour, de Lescar, d'Oloron et de Tarbes, désignaient l'archevêque de l'archidiocèse d'Auch, lequel archevêque gardera le titre de primat de Novempopulani et du royaume de Navarre jusqu'à la révolution de 1789. Donc on était en plein dans le milieu vascon, c'est-à-dire entre Garonne et Pyrénées. À la sortie du monde antique, les Basques actuels se répartissaient entre la Vasconie du Nord, Vasconia ici, tombée entre les mains des Poitevins qui se sont auto-intitulés Aquitains, mais les Aquitains c'était nous à l'origine bien sûr, et la Vasconie du Sud, de l'autre côté des Pyrénées, qui deviendra le royaume de Pampelune, puis de Navarre. Voici ici une carte du 9e siècle qui a été produite à l'abbaye de Saint-Sever. Vous avez Bayonne ici, avec l'Adour, les Gaves, Saint-Sever. Ici, vous avez la Garonne. Au nord, vous avez l'Aquitaine des Poitevins. Puis ensuite, tout à fait au nord, vous avez la Gaule, avec etc. Et les Français qui sont là en haut, dans leur berceau hollandais, ils n'ont pas encore fini d'envahir complètement l'Europe. Vers 1023, le roi de Navarre, Sancho Handia, Sancho le Grand, érigea le Labour en vicomté pour son cousin Lou Sancho. Les rois de Navarre vont charger le jeune diocèse labourdin d'évangéliser le nord, c'est-à-dire la montagne, la partie la plus pauvre de la Vasconie. Eux vont reconquérir les riches terres du sud sur les morts qui ont envahi le royaume. Le roi de Navarre nommera 8 vicomtes qui résideront à Lapourdôme. Lapourdôme, c'est le vieux nom de Bayonne, le premier des noms de Bayonne. Ils résideront au donjon Floripès, donjon qui était dans la cour du château vieux et qui a été démoli par Richelieu. Il y a le plan indiqué sur le sol. Le huitième vicomte Bertrand, c'est lui qui appela les prémontrés vers 1130 et il fit sa sépulture dans les murs de l'église de la Hanse. C'est là qu'il est enterré. Comment vont s'établir ces prémontrés? Ils vont s'établir difficilement car la concurrence est rude. Les ordres, surtout les cisterciens, cherchaient plus leur profit qu'à évangéliser les peuples. Les chanoines prémontrés vont se positionner, donc ils arrivent ici, ils sont nommés vers 1135 par l'archevêque d'Auch, et ils vont fonder la Case-Dieu. Et de la Case-Dieu, ils vont redescendre à la Dour par Saint-Jean de Castel, Divielle, Artus, Lens, Ourdax, et ils iront sur Pampelune. Et une branche ici ira vers Soubernois, qui est actuellement détruite, qui était à Biriatou, entre Andaille et Biriatou, pour Saint-Jacques, c'est là qu'ils étaient établis. Toutes ces terres voisines étaient férocement gardées. Ici, Cagnotte et Sordes, les bénédictins de Cagnotte et de Sordes, veillaient jalousement sur les terres de pacage. Et ici, c'était les Augustins de Leyre et de Roncevaux qui avaient tous les pacages de montagne, les passages de col, etc., etc., j'en passe, et des meilleurs. Ce qui fait que depuis la Case-Dieu, ils ont rayonné dans nos pays et surtout sur la partie nord ici, protégés qu'ils étaient par le roi de Navarre et le vicomte du Labour. Ici, vous avez l'abbaye de la Hanse, l'abbaye d'Ourdax, voilà la vieille route ici qui allait à Pampelune, une route très fréquentée, notamment par la contrebande que les Bayonnais entretenaient sévèrement. Bayonne était l'un des grands ports de la Castille. Les Bayonnais étaient établis à Pampelune. De Pampelune, ils allaient sur les bords de l'Èbre et ils faisaient remonter les marchandises par la grande voie, par la voie du Bastan ici. Ils descendaient la Nive et ils venaient se servir à Bayonne. Bayonne était en concurrence avec Passacres, Bilbao, etc. Voilà, à ces époques-là, notre diocèse avait à peu près ses contours. Le diocèse de Bayonne était absolument énorme et surtout, il impliquait ici le Bastan et il allait jusqu'aux abords de Saint-Sébastien. Ça durera, ça, jusqu'à la fin des guerres de religion, où le pape va trancher, couper avec les magouilles du roi d'Espagne, du roi de France, etc., vont nous amputer tout ça et nous remettre un diocèse tel que nous le connaissons actuellement. En jaune, vous avez l'implantation des prémontrés, ou l'implantation supposée des prémontrés à ces époques-là. Vous avez là, ici, Ourdax est là. Là, le long du Bastan, ils vont fonder toute une série de paroisses. Bref, ils vont évangéliser tout ce secteur ici. Et ils auront des dons sur Ispour, Lantabat, Pagol, etc., où ils pourront rayonner à leur tour et créer notamment des vicariats, comme on dit, c'est-à-dire des paroisses. Voilà la vallée du Bastan qui s'ouvre à eux. Tous ces villages là-bas étaient sous la coupe du diocèse de Bayonne à ces époques. Et puis voilà, Soubernois ici, qui était entre Biriatou et Andaille, sur les bords de la Bidassoa, mais Soubernois a été détruite, elle est rasée, il n'en reste plus rien. Alors, ces gens-là vont créer des abbayes, des prieurés et des établissements agricoles, des maisons, en quelque sorte, puis des hôpitaux, et ils joueront un grand rôle dans en accueillant les pèlerins de Compostelle. Les prémontrés vivaient en communauté. En communauté, ils avaient un chapitre qui élisait leur abbé, et les différentes abbayes étaient groupées en unités administratives qu'on appelle des circaries, qu'ils appelaient des circaries. Ces abbayes avaient à leur tête un abbé assisté d'un prieur qui veillait à l'économie, main-d'œuvre locale, convers, ouvriers, etc., etc. Ils veillaient à la pastorale, ils évangélisaient, ils s'occupaient des paroisses, etc. Ils veillaient l'hospitalité, ils servaient des repas, ils avaient des hôpitaux, ils logeaient les pèlerins de passage, et, comme je le disais, ils avaient un très fort... une grande importance du point de vue des instructions, de l'instruction. Voilà, ici, actuellement, leur maison mère en l'Europe de l'Ouest est à Mende, au Mondaï, je ne sais pas comment on dit, c'est en Normandie. Vous avez ici le programme complet d'une journée d'un prémontré. C'est les après-midi où ils sont libres pour aller dans les paroisses. Ici, ils allaient dans les paroisses, mais ils allaient aussi dans les caillolards. Ils montaient en estive. Ils montaient avec les bergers. Ils étaient vraiment dans le cœur de l'activité ici. Ici, vous avez, sur main droite, là, on a pu sauver de ce qui a pu être la mitre d'un évêque, d'un père abbé d'Ourdax, avec ici les gants, les chaussons, etc. Alors, voyons maintenant les prieurés qui sont installés ici en Pays Basque Nord. Alors, en Pays Basque Nord, le premier prieuré probable est la Madeleine d'Orchamps. Peu de gens d'entre vous la connaissent, parce qu'elle est dans les bois actuellement, entre Souraide, Saint-Pé, et Ustaritz. Elle a été restaurée grâce au cinéaste René Clément. C'est lui qui a permis de la rebâtir entièrement. Je vous signale le numéro de Bourouchkak, édité à Saint-Pé. Il y a un numéro entier consacré à l'histoire de Notre-Dame, de la Madeleine d'Orchamps. Ici, vous avez Souraide, qui était un prieuré. Alors, il reste là-dedans peut-être quelques vagues éléments. Saint-Jacques de Gostolo. Il reste le linteau au-dessus de la mairie qui montre que les prémontrés étaient installés là. Et ici, vous avez une Vierge. Le culte de la Vierge était très fort chez les cisterciens, chez les prémontrés. Là, vous avez la Vierge qui foule aux pieds le serpent, qui tient dans sa gueule la pomme qui aurait perdu le genre humain. Ici, vous avez un autre prieuré, très important, on y reviendra, et pour cause, c'est le prieuré d'Ainhoa. Ici, vous avez la vieille église Notre-Dame d'Aranza, où l'on va en pèlerinage tous les lundis de Pentecôte, on monte à pied depuis la Bastide, qui est en bas ici. Et ici, vous avez la Bastide d'Ainhoa, qui est en fait un dispositif fortifié, que l'on va voir dans un moment. En effet, au début du XIIIe siècle, le seigneur d'Ainhoa était Juan Pérez de Bastan. Et il va créer un péage à Ainhoa que le roi de Navarre, Thibaut de Champagne, va lui racheter. Et, alors vous avez ici les armes du seigneur de Bastan, et vous avez donc Ainhoa qui deviendra un prieuré important. Ce prieuré servira de bouclier, en quelque sorte, pour protéger Pampelune. En effet, vous avez ici une carte que j'ai prise à Google. Vous avez Bayonne, ici en haut, avec l'Adour, la Nive, et vous avez ici Ainhoa. Ainhoa va être fortifié par les prémontrés. Le Mundarain, ici, avec un château qu'il y avait en haut, qui maintenant est à moitié détruit. Vous avez le prieuré d'Ourdax, l'abbaye d'Ourdax, ici. Et ici, vous avez le Gastelu-Sar de Sarre, qui est à l'entrée de Sarre. Il a été malheureusement complètement défiguré par l'administration qui a collé un château d'eau là-dessus. Allez voir pourquoi. Ils avaient de la place à côté, vraiment. Bon, enfin, bref. Sougaramourdi ici. Et le Gastelu-Sar, m'a-t-on dit à Sarre, pouvait faire un feu, et le feu était visible au mandarin, était visible également à Inoua. Donc on pouvait avertir le Bastan de l'arrivée de gens indésirables. Ce qui fait que le Urdasoubi gardait un château qui était ici sur le mont Askar, et ces sites étaient des avant-postes d'Amayour, qui était ici en bas. Amayour se trouvait le grand château du roi de Navarre qui contrôlait l'entrée du Bastan. Voilà l'église d'Ainoa. Vous avez encore les meurtrières qui sont en place. La partie haute a été refaite. Elle était en our, en bois. L'église est romane, bien entendu. Les prémontrés, ce sont eux qui l'ont faite. Et cette église fortifiée ressemble comme deux gouttes d'eau à la Donna Maria que vous avez en Bastan, à quelques centaines, enfin quelques kilomètres de chez nous. Enfin, de chez nous, de ça, je veux dire, quoi. Vous avez donc, voilà à peu près l'allure que devait avoir notre église d'Ainoa au Moyen-Âge lorsque les prémontrés l'ont construite. Voilà, donc l'église d'Ainoa, la première église primitive devait être quelque chose d'à peu près comme ça, avec des remparts en bois, des lisses probablement. Et le Ainoa, on le verra tout à l'heure, a été réagrandi au XVIIe, sous les consignes du Concile de Trente. On a fait une sacristie, une grande tour, et puis ici un couronnement au XIXe, avec un clocher qui a été fait plus tard, on verra ça tout à l'heure. Alors, les monastères fondés par les prémontrés, l'un des tout premiers monastères avec Urdax, lequel est le premier, ça on n'en sait rien, c'est l'abbaye de la Hanse, dont il reste ici le logement abbatial, qui est transformé en mairie actuellement. Voilà ici l'abbaye elle-même, qui vient d'être restaurée, je vous engage vivement à aller la voir, c'est un petit bijou, c'est une église romane entièrement prémontrée, il n'y a pas de problème. Et là, sont enterrés dans ces murs les 8 premiers vicomtes du Lamour. C'est vraiment le panthéon de chez nous, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est une petite abbaye modeste. Il y avait un abbé, un prieur, un syndic, 4 à 5 moines maximum. Ce qui fait que Rome ne les taxait même pas. Ils ont été victimes de guerres de religion qui ont détruit largement les bâtiments conventuels. La Révolution a vendu les biens de l'abbaye en 1793, et en 1820, l'église romane a été transformée en église paroissiale que je vous engage à aller visiter. Le voilà ici. Cette église est une sorte de grand couloir, c'est tout ce que c'est. Les prémontrés ne voulaient pas faire de style particulier. Ce n'est pas comme Citeaux et Cluny. Ils voulaient simplement des lieux pour prier, c'est tout. Donc leurs églises ressemblent un peu à des bordes, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez donc les restes des cloîtres ici, avec la fontaine au centre, et les bâtiments conventuels avec la mairie qu'on a vu tout à l'heure. Voilà ici l'abbaye, l'église maintenant paroissiale. Seule l'abside est un peu ornée et possède ici des chapiteaux sculptés très curieux qui méritent d'être vus. Et puis ici des stèles discoïdales, bien sûr, qui ne sont plus là maintenant. Elles ont été déplacées et se trouvent sous le cloître. Voilà le portail d'entrée de l'abbaye, avec les chapiteaux ont été très, très fortement endommagés, et avec ici une date de 1121 qui est gravée sur le linteau ici, mais 1121 c'est pas la date de création de cette église, 1121 c'est la date de fondation des prémontrés. Donc le linteau devait être comme ça à l'époque, probablement. Et nous voilà maintenant dans l'église qui nous intéresse, la grande abbaye du Bastan, qui elle est restée relativement entière. La voilà ici. Là. Alors, pour la localiser, vous avez Bayonne ici, la Tcholaye, vous avez derrière Espelette, le col de Pinodieta, qui vous permet de franchir l'Idiasco Gagna, avec ici le col Arismendi qui donne sur Souaïde, et le quartier Okilawa. C'est un quartier chaud pour la contrebande, ça. Bon, bref. Et puis vous avez ici Carica, comme l'appellent les gens d'Ainois, c'est-à-dire la Bastide d'Ainois, fondée par les Prémontrés donc, à l'époque. Et puis vous avez ici Dantxarria, et ici Urdasubi, où vous avez l'abbaye qui est là. Et ici, quand vous prenez la route, là, vous montez, vous allez vers le col d'Ochondo, vous allez à Mayur, et de là à Pampelune. Alors, à l'origine, on pense, tout ça là, c'est des histoires, hein. On ne sait pas très bien ce qu'on a, on n'a pas de papier. Mais à l'origine, on pense qu'il y avait une communauté de gens qui cherchaient à vivre comme les apôtres vivaient autour du Christ. Ils s'aimaient tous et ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Et ils avaient un point d'eau où ils étaient établis. C'est pour ça qu'on a, vous avez ici la fontaine des frères, qui est ici en bas, là, c'était certainement le point d'eau du premier Urtax. En 1188, cette communauté, appelons-la comme ça, hein, possédait la Domus d'Urtax. Alors on pense que c'est un seigneur navarrais qui leur avait donné ce lopin de terre sur lequel ils s'étaient établis et qui formait ce qu'on appelle la Domus d'Urtax. Pourquoi on sait que cette communauté était là? C'est parce que déjà, il y avait les deux Finoses, alors c'est des frères probablement, furent témoins d'une charte de donation au cloître de la cathédrale de Bayonne, mais au cloître romain, de la cathédrale romane. Tout ça, on l'a perdu hein, depuis. Hein. Donc ils étaient là, ils sont venus au diocèse de Bayonne, et ils servaient en quelque sorte de témoins. Et vous voyez déjà une complicité qui va se mettre en place entre Urtax et notre diocèse. Avec son prieur Sancho, et une dizaine de chanoines, elle se consacrait au culte divin et à l'hospitalité. Vers 1210-1211, ça va vite, hein, la communauté achète Sogaramurdi au seigneur de Calvet des Sautes. Alors Calvet des Sautes, c'est peut-être lui qui a donné la Domus d'Urtax, on ne sait pas. Mais enfin, en tout cas, il a bien vendu, là, apparemment, parce que ça lui est revenu assez cher. Et Sogaramurdi va devenir villa. Mais en 1366, la villa de Sogaramurdi, comme beaucoup d'autres de son style, va essayer de sortir de l'emprise cléricale et de s'en détacher. Ce qui fait qu'en 443, Sogaramurdi put élire Jura et Merabé. En 1580, elle devint une paroisse autonome. Enfin, vous avez vu, il a fallu quand même plus de 400 ans pour ça. Mais féodalisme oblige, les paysans durent utiliser le moulin du monastère, être soumis aux volontés de l'abbé, ne pas bâtir d'église. Vous avez Sogaramurdi ici. Voilà. Ça, le mont Ascar. Et derrière le mont Ascar, vous avez l'abbaye. Eh bien, les gens de Sogaramurdi. Et puis ici, les terres de Sarre, ici les terres de Saint-Pé. Eh bien, ici le col di Bagnetta, oh là là, magnifique en proto-histoire, le col di Bagnetta. Des dolmens, des cromlechs, en veux-tu, en voilà. Donc, Sogaramurdi n'avait. Les moines, enfin, les chanoines d'Urtax, leur avaient interdit de construire une église, parce qu'il fallait qu'ils aillent à la messe à Urtax. Et donc, les gens de Sogaramurdi ont trouvé le prétexte de s'isoler en disant « Mais non, on veut une église parce que quand il pleut, c'est pas pratique de venir par les chemins, et donc, etc. » Donc on cherchait toutes les situations tordues de façon à se détacher de l'emprise de ces terribles chanoines. Ici, vous avez à Sogaramurdi, sur le presbytère de l'église, de la paroisse actuellement, les armes d'Urdax avec le chapeau de l'abbé et les armes de Calvette des Sautesses qui ont été conservées par les chanoines. Un bâton à Roger et puis un croissant de lune. Et ici, chose très importante, pour la première fois en 1262, le pape Urbain IV écrit que ce sont des prémontrés. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui c'est qui est là. On pense que c'est eux, mais on n'en a pas de preuve absolue. Là, le document de 1262 est clair, c'est les prémontrés d'Urdax, pas de problème. Alors, à Urdax, ils sont là et ils ne sont pas là pour rien. Ils ne sont pas là pour rien parce qu'il y a des forges, des minerais de fer, de cuivre, extrêmement importants. Et Urdaçoubi va devenir un centre industriel de première importance. C'est ça qui va les perdre, parce qu'ils vont faire du capitalisme, dans un milieu qui ne supporte que le communautarisme, où tout est communautaire. Eux, ils vont sortir ils vont faire de l'argent et du profit, disons. En 1640, ils embauchaient 200 personnes qui travaillaient rien que pour eux. C'est immense quand on y pense, dans ces montagnes, ce qu'il pouvait y avoir, 200 personnes travaillant uniquement pour le monastère. Des forgerons, des bûcherons, des charbonniers, des transporteurs. À Ainoa, il y avait énormément de transporteurs. Voilà ici des mines que l'on voit, toute la zone est creusée de mines et de gouffres. Faites-y attention si vous y allez, parce que regardez où vous mettez les pieds, parce que voilà. Et puis vous aviez des pépinières. Des pépinières, en voilà une ici par exemple, en voilà une autre ici, voilà l'entrée. Vous voyez, elles ont résisté au siècle, il faut aller les chercher, on les trouve, il n'y a pas de problème. Et entre 1742 et 93, les prémontrés avaient replanté 250 741 arbres, des chênes exactement, essentiellement. En 1753, ils avaient replanté 5273 chênes et 25 hêtres. L'année suivante, ils en plantaient 4300, etc., etc. Autant dire, ce sont des forestiers de première main. Quand vous pensez que ces gens-là sont des recrutés localement, ce qui vous dit, le Pays Basque, l'importance des bois en Pays Basque et des forêts. On n'en parle jamais, on voit toujours les Basques en train de danser le fandango et de jouer à la pelote. Non, non, c'était des carriers et des forestiers de première grandeur. Bien entendu, il y avait à l'abbaye, dépendant de l'abbaye, quatre grandes forges. Donc on en a repéré trois. La quatrième, on ne sait pas trop où elle est encore pour le moment. Et puis surtout, on a encore en place l'une dans la forêt, il faut aller la chercher, la grande maison de Bacchiola, qu'ils ont construite en association avec le Bastin. Et bien sûr, c'est assez formidable, nous avons les archives à Pampelune, où nous avons les devis de construction de ces maisons et des forges qui vont avec. On pourrait reconstituer une forge entièrement rien qu'en lisant les archives de Pampelune. Alors, ils ne font pas que du minerai, ils ne font pas qu'extraire du minerai, ils en font venir depuis Bilbao, etc. Mais surtout, vous avez ceci, en 1625, face aux menaces espagnoles, le comte de Gramont fait armer Bayonne. On renforce les fortifications, on arme les habitants et on complète l'arsenal en commandant des armes. Et vous voyez que l'on commande 30 arquebuses à crocs à Domingo de Bidart, forgeron ainois. Donc ces gens-là étaient à la pointe de l'industrie. Ils ne faisaient pas simplement qu'extraire du fer. Alors vous en avez à la Bastide, vous en avez à Urte, vous en avez à Sarre, etc., etc. Alors, voilà les heures et les malheurs de leur architecte. En 1566, les souverains espagnols s'emparent de la Navarre. C'est la fin de du beau royaume de Pampelune. Ils s'emparent de la Navarre par les armes, et le pape, bien entendu, marche avec eux, ça va de soi. le pape Pie V, lui, il admet que l'archidiaconat du Bastard soit détaché de Bayonne et provisoirement rattaché, dit-il, à Pampelune. Puis finalement, il signera l'arrêté et en 1666, adieu, toute la partie sud du diocèse va disparaître, elle va passer en Espagne, de l'autre côté. Bien entendu, le passage ne se fera pas tout d'un coup. Jusque sous Napoléon, les curés de Nainois étaient nommés conjointement par l'évêque de Bayonne et par le prieuré et par l'abbé d'Ordax. Donc la complicité va durer encore un peu de temps. Voilà le château d'Amayour ici qui va être pris par les Espagnols qui rentrent dans la Navarre, s'emparent de la Navarre, détruisent et rasent le château d'Amayour, dont Ordax était l'avant-poste. Ce qui fait que les Navarrais ou des Navarrais vont mettre une obélisque à la place pour signifier que leur château se tenait là. Bien entendu, les franquistes feront sauter l'obélisque, mais les Navarrais vont la reconstruire. Et puis, pur hasard, ça c'est moi qui dis que c'est le pur hasard, souligne, parce que vraiment ça commence à faire. Le 10 juillet 1526, l'abbaye prend feu. Un terrible incendie détruit l'édifice. On ne put sauver que les hosties consacrées, les édifices, des effigies de saints et quelques livres, c'est tout. Tout le reste a brûlé, a disparu. C'est quand même bizarre. Bien. Alors parmi les grands constructeurs de cette église, de cet édifice romano-gothique, il faut signaler surtout Pedro de Ainhoa, qui va diriger les forges aussi, et Juan de Echaide, qui furent des très grands abbés qui gérèrent formidablement bien cette abbaye. À l'entrée du XIIIe siècle, sous le règne des Champenois, le complexe maçonnais était édifié avec son sanctuaire, mais on ne sait rien de l'allure qu'il avait. Donc l'édifice devait être accompagné d'un cloître et de dépendances. Il n'en reste rien, si ce n'est des petits morceaux qu'on a ici, des bouts, et puis peut-être le bénitier qui est actuellement dans le monastère et qui devait être certainement à l'entrée du vieux monastère romano-gothique. Suite aux guerres de religion et autres péripéties, le XVIIe siècle initie une période de bâtisseurs dans toute l'Europe, et notamment en Europe centrale, en Europe du Nord. C'est dans cette vague que va être emporté le nouveau monastère. Alors là, je vais vous donner ici le travail. Je vais m'appuyer essentiellement sur le travail de Maria Teresa López de Guereño Sanz, qui a fait un travail merveilleux sur l'histoire de ce monastère. Voilà l'église monacale. Ici, vous avez le cloître. Et là, les bâtiments conventuels. Alors, d'abord, en 1552, l'abbé de Landivar, un autochtone, Landivar, certainement, un gars du coin, confie le chantier d'une nouvelle église à Martin de Bunano, qui était maître des Cantarillas de Yauri, en Navarre. Donc il lui demande de détruire la vieille église en ruine, de faire une église un peu plus longue que l'ancienne, et donc il va commencer par détruire toute l'église et laisser le chœur en place pour que les prémontrés puissent encore officier. El dicho maestro Martín se obligó a sacar a su cargo, alors à ses frais et risques et périls, la pierre du chantier, doit sortir tous les bois, etc. On a tous les devis, bien sûr, tout ça c'est conservé à Pampelune. Martín de Bunano commence son travail, il détruit, il rase tout, et puis il commence à faire les quatre travées, 1, 2, 3, 4 et le chœur. Et il commence à construire en 1552. Mais en 1557, il n'est toujours pas payé, dit-on. Les prémontrés ne veulent pas lâcher rien. Alors qu'est-ce qu'il fait, Bunano? Il dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et il quitte le chantier. Et il s'en va, et il laisse tout en plein. Ce qui fait qu'en 1587, l'église était toujours en rade, et le chantier, les primontrés, ne pouvant pas assurer de dépenses, vont s'adresser au roi d'Espagne, puisque c'est maintenant lui le patron. C'est alors qu'arrivent Martín et Oyer de Zubieta. Ils sont natifs de Narvarte, qui est le petit village derrière chez nous, là, derrière Ainhoa et Sarre. Martín de Zubieta, son titre, c'est Maestro Cantero. Il est sur le chantier à 1611 avec son fils Oyer. Il s'engage à achever en 8 ans toute l'église et à terminer la tour. Les travaux en fait s'étalèrent jusqu'à 1636 et il ne sera payé qu'en 1648. Alors, c'était le devis se levait alors au double du prix initial. Il ne fallait pas être pressé avec les prémontrés, je vous assure. Alors voilà les Zubieta à l'œuvre. Les Zubieta sont partisans du style herreriano. Ils vont nous donner chez nous du pur style herreriano et par coup de chance, ils vont travailler à Sarre et à Ainhoa. On a vraiment ici quelque chose d'extraordinaire qui n'est étudié par personne. Personne. Vous serez peut-être les rares, avec ceux de Sarre à qui j'ai cassé les pieds suffisamment à comprendre, à avoir l'intérêt de ce trio. Sarre, Ainhoa, Urdax. Alors vous avez ici les Zubieta qui reprennent le chantier, ils vont rehausser le chœur, donc les Zubieta vont faire tout le reste du chantier. Donc ils vont rehausser le chœur, ils vont faire un chœur avec une voûte réticulée, magnifique, allez voir ça, c'est un chef-d'œuvre. Deux travées ici, les deux premières travées. C'est classique, dans tout le Bastan, vous avez à peu près ce type-là. Et puis ici, vous avez la tour qui est là, la grande tour. Il y avait peut-être ont-ils fait la porte qui donne dans le cloître actuellement. Ça, on ne sait pas très bien. On est sûr de ça, de ce plan et de cette construction, mais pas du reste. Voilà ici l'intérieur du monastère. Monastère d'une austérité glaçante, hein, je vous dire ce qu'il y est. Les prémontrés étaient derrière, ils pistaient tout, il fallait rien, pas d'enjolivure, rien. Pas de statue, rien, il fallait faire des murs avec eux, c'est tout. Donc, ici vous avez le monastère avant sa restauration d'il y a une quinzaine d'années à peu près. Le voilà maintenant, c'est quand même une autre allure. Voilà ici le chœur avec la voûte réticulée, le faux pseudo-transept avec la voûte réticulée, et là, les très jolies ogives bâties par les Zubieta. Et ici, les petites fleurs, les petites marguerites qui vont être tolérées, ici, là, tout au long, qui sont leurs signatures. Voilà ici encore les voûtes. Et alors ici, vous avez une chose tout à fait intéressante, c'est que les prémontrés veulent un portail d'entrée, mais qui soit le plus simple possible. Pas de garniture. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, les Zubieta. Ça, c'est pas d'eux, ça. Hein. Ça, c'est Poudès qui va faire ça. Mais, par chance, ils étaient en train de travailler à Ainhoa à côté, ils étaient en train de rebricoler l'église d'Ainhoa. On va voir ça dans un moment. Ce qui fait qu'ils ont pu faire un portail à Ainhoa qui a une toute autre allure. Et le portail d'Ainhoa, vous le voyez, est probablement, de mon avis, bien entendu, le plus beau portail d'église du Pays Basque. Ça, c'est du Pays Basque Nord, au moins. Ça, c'est sûr. Donc, ceci est terminé. Après, on ne sait pas trop ce qui se passe. On sait que vers 1680-84, Juan Martín de Miura y Espona, qui sont canteros à Vera de Bidasoa, sont payés par les Bordas pour faire le cloître. Donc ils vont rajouter un cloître ici. On ne sait pas ce qu'il y avait là. Il y avait des choses, mais pour le moment, on ne sait pas. Je préfère me taire. Et ici, derrière, on ne sait pas non plus. C'est très ancien, tout ce qu'il y a là derrière. On est sûr que ça, c'est eux qui ont fait le rez-de-chaussée. Le premier étage, c'est douteux, parce que l'église va beaucoup souffrir, et elle va être restaurée, entre guillemets, et pas toujours avec la main légère. Le XVIIe siècle, bien sûr, est particulièrement pénible à cause de l'encre et des spaniers qui arrivent ici et qui vont allègrement brûler un bon nombre de gens avec l'aide d'un misérable abbé d'Ourdax qui, à l'époque, était asservi au Gramont et au Urtubi. Urtubi n'est pas brillant, je peux vous dire, quoi qu'ils en disent. Voilà ici en 1736, l'abbaye est terminée. Trois canteros de Sugarramurdi, même. Miguel de Aspilcueta, Tomás de Lecumberia et Miguel de Chalén vont faire les bâtiments conventuels ici, sous la direction de Diego de Oma, maestro cantero qui dirigera le chantier. L'abbé alors était Bernardo de Aguirre. C'est lui qui va faire finir, qui fait terminer le chantier que vous avez de nos jours. Ce bâtiment est en cours de restauration actuellement. Les deux sous-biétas vont être envoyés à Inoa, qui est le prieuré d'Ourdax. Ils vont leur demander de refaire l'église, de retaper l'église, car l'église est toujours une église château, avec des ours et tout. C'est passé de mode tout ça maintenant. Il faut remettre ça, le concile de Trente est passé, il a fallu donc remettre à jour un peu la liturgie, les églises et autres. Donc, sur la vieille église romane qui conserve les meurtrières ici, les sous-biétas vont enlever les ours, mettre un blocage de pierre et mettre des fenêtres. Ils vont bâtir une sacristie, la sacristie du XVIIe, avec des boiseries merveilleuses à l'intérieur. Voilà la vieille église romane ici. Et voilà ici la partie récente que vont faire les sous-biétas. Et surtout, les sous-biétas vont édifier cette tour, qui est un véritable chef-d'œuvre. Jusque-là, elle va s'arrêter, parce que le clocher ici est du XIXe. Il a été fait après coup. Donc, les sous-biétas vont faire ici un clocher qui est certainement, qui est le plus beau clocher du Labour et de loin. Oui, évidemment. Et puis surtout, quand ils vont refaire les ours, ils auront eu le bon goût de laisser en place la charpente médiévale, vous voyez, qui a été coupée ici par endroits. C'est la charpente médiévale de l'église romane qui est là. Donc nous avons ici, en Pays Basque, en Labour, à deux pas de Bayonne, l'un des plus beaux exemples de charpente romane. Personne n'en parle. Personne. Rassurez-vous. Et vous avez ici, ici en bas, vous avez le cul de four qui a été fabriqué avec une toile très épaisse et très grossière qui fait un très bel arrondi au-dessus de l'autel. Le voilà ici, le cul de four, qui est couvert de fleurs de lys. Ce n'est pas les fleurs de lys de la royauté, c'est les fleurs de lys de la Vierge. C'est l'honneur, la Vierge est honorée. Et surtout, ce plafond à caisson, qui, excusez-moi, mais c'est le plus beau plafond quand même, à caisson que nous puissions avoir en Labour et en Pays Basque. Voilà, puis un très beau retable, classique. Devant tant de succès, bien sûr, et devant tant de qualité, ne pouvait attirer qu'un homme comme Achula. Donc Achula est nommé curé de Sarre. Ça tombe bien, il est de cette maison-là, de la maison Achula. Il s'appelle Pedro Aguirre de Aspilcueta. C'est son nom. Mais la maison s'appelant Achula, ben il a pris le nom de la maison. Il s'appelle Pedro de Achula. Et donc, Achula, il est enterré ici. C'est le père de la littérature basque, bien sûr, tout le monde le sait. Hein. Au XVIIe, la grande littérature en basque, c'est Achula. Et Achula a été formé par les prémontrés à Ourdax, dans le collège. Voilà, il est enterré ici, avec son oncle, avec son neveu, pardon, à l'église de Sarre. Ici, ils sont enterrés, les curés de Sarre. De Pedro de Achula, on ne connaît rien, si ce n'est que son écriture, c'est tout. On le voit signé, Petrus de Achula, ici. mais on n'a pas de faute. On n'a pas de photos de lui, de gravures de lui, de représentations. Le dessin qu'on a, qui traîne partout, je crois, est de Tillac, un truc comme ça. Alors, l'église de Sars est assez compliquée, mais mérite d'être regardée, parce que l'église de Sars, à l'origine, c'est un château, un système défensif des Laettes. Les Laettes sont de Sars. Ils ont fourni des évêques à Bayonne, entre autres. Et les Laettes ont donné leur chapelle seigneuriale à Sars. Et Sars va allonger cette chapelle pour en faire l'église qui est là. Les archives du Bastard nous racontent ces choses-là. Ce château, il est près de la Galzana, c'est-à-dire de la route qui mène au Bastard et qui descend depuis Arbonne et depuis la côte chez nous. Et puis vous avez l'hôpital des Sahara ici. Le vieil hôpital. Il y a tout le complexe qui est en place. Ça, c'est l'état un peu que va trouver Atchoulard quand il arrive. Mais Atchoulard, il arrive à un moment où les Saratars sont en train d'augmenter leur église, d'amplifier leur église par un maçon qui n'est pas terrible, malheureusement, Johannes de Arizmendi. Johannes de Arizmendi, ce n'est pas un fort de guerre, il faut dire. Ce qui est, il fait une borde, lui. Il construit, il monte des murs, un peu plus étroits sur les gros murs de 1600 et quelques. Et Atchoulard paye, lui donne de l'argent pour commencer à construire une tour, ici. Il la finira plus ou moins. C'est un autre curé, qui est l'abbé Robin, qui au XVIIIe finira la tour de l'église de Sars, en fera cette tour majestueuse. Et donc, Arizmendi est en train de construire, d'élever l'église, et ici, l'église de Sars subira encore une amplification au XIXe. Mais Atchoulard, lui, il ne veut pas amplifier des églises, il veut la mettre au goût du concile de Trente, il veut faire quelque chose de joli, que ça ait de la gueule, quoi. Il n'y a pas de raison. Le monastère est joli, Ainoa est beau, et lui alors. Donc, il va demander à ce que l'on fasse une église nouvelle, moderne. Donc il va faire une entrée ici, une entrée qui donne sur la place de Sars, et non plus qui donne sur le clocher, comme c'est là. Et là, il va faire l'escalier des hommes pour accéder à la galerie, ici en haut. Voilà, alors les Laettes, par chance, ont conservé l'entrée de l'église château. Elle est encore entière, elle a été conservée avec l'enfeu des Laettes ici. Ils sont enterrés là, les seigneurs de Sars. Ici, on a mis Saint-Martin, le patron de la paroisse. Puis ici, là, ce sont les murs du 16e qui sont là. Et puis ici, un peu plus haut, vous avez l'entreprise Johannes de Arizmendi. Ici, vous avez la vue du nord de l'église, avec le château des Laettes ici, qui vient jusque-là à peu près. Voilà la porte, l'enfeu est à ce niveau-là. Donc l'église a été rallongée ici au 16e. Puis quand Arizmendi arrive, il monte tout ça. Et après, au 19e, on va monter encore le troisième étage en haut. Voilà. Donc, la fin, ben en 1789, dans la nuit du 23 au 24 septembre, 4000 soldats, enfin soldats, si on peut dire, ravagent Salvatore. 9000 livres et documents disparaissent ou servent de litière pour les chevaux. Ils détruisent les forges, les moulins, les réserves de bois, ils incendient Urdassoubi et Sugaramurdi. En 1800, il ne restait plus que 4 maisons debout autour du monastère. Les chanoines s'enfuient, ils vont à Loyola, ils y resteront jusqu'en 1806. Puis ils vont demander à Roger Poudès, c'est pas un brillant, de réparer le monastère. Alors c'est lui qui va rectifier le monastère. Bref. Et puis, après avoir fait fortune aux Amériques, Etchenik de la maison Indiano-Baitia, il fait construire Indiano-Baitia devant le monastère, aide à restaurer l'église et les bâtiments devenus maintenant centre paroissial. Mais hors de la tutelle des prémontrés. Les prémontrés ne sont plus là maintenant. C'est fini. Avec le capitaine du voisin d'Aïnois et d'Etchenik fut le correspondant du prince Louis-Lucien Bonaparte dans les études sur le basque de Sarre, Aïnois et dans le coin. C'était du temps du célèbre Abadi d'Arrast, de Pierre Loti, qu'on évoque ici. Il est mort à Pampelune en 1839 et pour le remercier de son action, les gens d'Ourdax vont faire une tombe qui sera dans le cloître. Elle est actuellement dans le cloître de la basilique d'Ourdax. Vous avez la tombe d'Etchenik qui est... voilà. Aujourd'hui, à Mondé, vous avez ce panneau à l'entrée qui vous montre la nouvelle abbaye de Mondé qui est devenue un peu la casse-dieu, si je puis dire, de l'Europe de l'Ouest, hein, avec le cloître, l'église, etc. Et surtout, l'église qui a été conçue par un prémontré, Eustache Restout, qui est enterré ici, dans l'église. C'est lui qui a dessiné tous les plans de l'église, du portail d'entrée et de tout l'intérieur ici. Et l'église a été édifiée en 11 ans, une dizaine d'années, vous vous rendez compte. Ce qui fait que vous avez des prémontrés maintenant, voilà où ils étaient au Moyen-Âge, ils étaient un peu partout, dans les villes et dans les champs, comme disait l'ancien maire de la Hanse. J'aime bien les prémontrés des villes et les prémontrés des champs. C'est exactement ça. Vous avez ici la tenue des chevaux de prémontrés au XVIIe. Et voilà ici la circarie de Gascogne, où nous étions, je ne sais trop que dire. Et puis là, maintenant, nous venons de restaurer la superbe abbaye de la Hanse, qu'il faut absolument aller voir, ainsi que l'abbaye d'Ourdax, qui sont les deux fiefs des prémontrés. Les prémontrés sont là. Ils sont revenus maintenant. Ils sont à Conques, ils sont à Sarance. Bon, peut-être qu'une nouvelle page s'ouvre. Voilà, j'ai fini.
Vous venez d'entendre les prémontrés du diocèse Navarro-Labourdin de Bayonne, regard sur les deux abbayes labourdines de Léonce et d'Urdassoubi. Cette conférence, présentée par Mickaël Duvert, était donnée le 8 février 2024 au Musée basque et de l'histoire de Bayonne.